J'aimerais parler ce matin sur les 10 commandements dans Exode chapitre 1, plutôt chapitre 20 et verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux » et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. 3 mois après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, Moïse est monté sur la montagne du Sinaï. Et il a reçu de Dieu les 10 commandements qu'on appelle littéralement les 10 paroles. En tout cas, dans le texte hébreu, ce sont les 10 paroles que Dieu donne à son peuple. Et il y avait 2 conditions pour que l'alliance soit conclue entre Dieu et son peuple. D'abord, il fallait écouter Dieu. Et ensuite, 2e condition, il fallait persévérer dans l'alliance que Dieu donne. C'était au chapitre précédent, au chapitre 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Dieu a voulu faire donc une alliance avec son peuple. Mais en fait, cette alliance était prophétique et désignait l'Église qui allait venir plusieurs centaines d'années plus tard. Et c'est repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament de la bouche de l'apôtre Pierre qui reprend cette pensée en l'appliquant à l'Église. Il dit dans 2 Pierre 1,9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Et on retrouve un royaume de sacrificateurs ou sacerdoce royal, si vous voulez, c'est synonyme. « Une nation sainte », c'était la même expression que Dieu avait utilisée à Moïse. « Un peuple acquis » pour que vous annonciez les vertus de celui qui a été appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc on se rend compte que l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple par Moïse au Sinaï, en fait, avait une portée prophétique et elle va finalement déboucher sur l'Église avec qui Dieu va faire alliance de cette nation sainte, ce sacerdoce royal, ce peuple acquis, eh bien c'est maintenant l'Église de Jésus-Christ. Et avant de donner les 10 commandements, Dieu va rappeler au verset 1 et 2 plutôt, verset 1 et 2, qui il est par rapport au peuple. Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait sortir Israël d'Égypte de la maison de servitude. Et nous devons nous rappeler toujours qui est Dieu face à nos difficultés, face à nos, peut-être les tourments, les obstacles qui sont là devant nous, mais nous voyons que Dieu est tout-puissant et qu'il est plus grand que tout cela. Alors voyons ces 10 commandements et quelle application on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il faut se rappeler que le peuple d'Israël donc, sortait du pays d'Égypte, qui est un pays où il y avait beaucoup de dieux. Il y avait toutes sortes de dieux pour la fertilité, pour les récoltes, le dieu du soleil, etc. Et il y avait une influence qui avait pénétré l'esprit, le cœur de ces Hébreux. Au milieu de ce polythéisme, ils avaient été en quelque sorte contaminés. Et Dieu voulait que maintenant, ils tranchent avec le passé et que toute cette idolâtrie, tout ce qu'ils avaient entendu en Égypte, eh bien, sorte de leur cœur. C'est une chose de sortir du monde. Ils ont quitté l'Égypte, c'est l'image de ceux qui ont quitté le monde et ses plaisirs pour suivre Christ. Mais c'est autre chose de faire sortir le monde de notre esprit, de notre mentalité, de notre cœur. Le peuple avait même souvent des faux dieux à la maison. Et on le verra si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que c'était assez fréquent, que tout en adorant le véritable Dieu, il y avait un compromis. Ils adoraient, eh bien, ils servaient d'autres dieux, ils appelaient ça des téraphim, des poteaux d'Achéra, des dieux Baal, etc. On trouve un exemple dans la famille de Gédéon. Vous savez comment Gédéon a été appelé, lui qui était craintif, à aller délivrer le peuple d'Israël des Madianites. Gédéon donc battait du froment dans le pressoir quand tout à coup l'ange de l'Éternel se révèle à lui et lui donne ce message de la part de Dieu. Tu es un vaillant héros, c'est moi qui t'ai choisi pour aller délivrer le peuple. Alors il résiste à cette pensée, il est en train de réfléchir en se disant qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Et il résiste à l'appel et à trois reprises, l'ange de l'Éternel lui fait comprendre que c'est lui. Et la première chose que l'ange lui dit, avant même d'entrer dans la mission que Dieu lui a confiée, l'ange lui dit, dans la même nuit, tu vas aller détruire tous les autels qui sont chez ton père. Parce que dans la famille de Gédéon, son père avait des faux dieux. Il y avait des faux dieux dans la maison, il y avait des poteaux d'Achéra, il y avait des autels à Baal. Et avant même de servir dans les plans de Dieu, il fallait déjà faire table rase de tout ce passé. Et effectivement, la nuit même, Gédéon alla dans la maison de son père, renversa l'autel qui avait été fait à Baal, le poteau sacré qui était dessus, et il a voulu ainsi tirer un trait avec le compromis, avec les péchés du passé. Et à la place, Gédéon a construit un autel à la gloire de l'Éternel, et là, ils ont offert des sacrifices à Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous enlevions toutes les choses qui ne sont pas de Dieu et que nous consacrions notre vie à Dieu. L'autel était maintenant consacré à Dieu. Et le lendemain matin, quand les gens de la ville sont arrivés dans la maison du père de Gédéon, qu'ils ont vu que l'autel avait été renversé, c'était aussi leur faux Dieu, alors ils se sont mis en colère et ont voulu faire sortir Gédéon de la maison pour le mettre à mort. Et là, le père a eu une parole intéressante, il dit, est-ce à vous de venir au secours de Baal? Qu'il plaide lui-même sa cause. Puisque vous croyez dans ce dieu Baal, eh bien on va voir ce qu'il va faire pour Gédéon. Et donc, Gédéon a été épargné. Et s'il a pu mener par la suite une vie de victoire, parce que nous avons vu qu'avec seulement 300 hommes, alors qu'il était parti avec 30 000 au départ, Dieu a réduit le nombre à 300 hommes pour que la gloire revienne à Dieu seul. Seulement avec 300 hommes, il a réussi à battre une multitude de Madianites. Comment est-ce possible? C'est par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, mais aussi par l'obéissance à sa parole. Car dans un sens, si Gédéon n'avait pas commencé par enlever tous les faux dieux, mettre sa vie en ordre par rapport à ce que Dieu exige, eh bien, il n'aurait pas pu continuer à marcher avec Dieu. Parce que le compromis, c'est un pied sur le trottoir et un pied dans le caniveau. Et il fallait qu'il ait les deux pieds au bon endroit et non pas avec d'un côté les Baals, de l'autre côté le vrai Dieu. Et il faut parfois du courage pour rompre avec le péché et pour rompre avec ces faux dieux. Alors vous allez dire aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus tellement ces statues, ces Baals, ces poteaux d'Achéra, tous ces faux dieux de l'Ancien Testament. Mais néanmoins, il y a des faux dieux qui existent dans notre société, ce sont les dieux de la musique, où on voit des gens qui vont courir après des idoles, les idoles ou des stars. Ce sont les dieux du sport, où on va vouer un véritable culte à certaines personnalités parce qu'ils font des exploits. Ce sont les dieux de la finance, dont Jésus a parlé. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Ce sont les dieux de la finance. Il y a même un temple qui a été fait à Paris, ça s'appelle la Bourse. Ce sont des gens qui passent leur temps à chercher à faire plus de profit, plus d'argent, pour en quelque sorte servir ce dieu de la finance. Ça veut dire que toute idole, en fait, c'est quelque chose qui a pris la première place dans notre cœur à la place de Dieu. Et ça, ça doit disparaître. Alors, on sait très bien que ces gens qui courent après les richesses, l'argent, toujours plus d'argent, le profit, c'est important d'avoir de l'argent, bien sûr. Mais d'en faire un dieu et de vouloir toujours plus, eh bien, ça crée une insatisfaction. Au contraire, au lieu d'être pleinement épanoui, ça crée un manque, ça crée une insatisfaction. Et finalement, on court après un mirage qui ne peut combler le cœur. Paul dit à Timothée, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » L'amour de l'argent, c'est un véritable dieu pour certains, c'est une idole qui va prendre la place de Dieu. Eh bien, ça va créer des maux, des souffrances dans lesquelles on ne peut pas être libéré. Quelques-uns, en étant possédés, ils sont possédés de l'amour de l'argent, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Or, le Seigneur veut nous délivrer de cet amour de l'argent, de cet amour des possessions, pour que nous puissions lui le servir et que nous ayons dans notre cœur, bien, que le Seigneur ait la première place pour l'honorer, pour le servir. Donc, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, c'est-à-dire on ne représentera pas Dieu sous une forme ou sous une autre, car il est interdit de représenter Dieu sous forme d'une statue ou de dessiner Dieu, car on ne sait pas comment il peut être représenté. Et ça serait d'ailleurs forcément rabaisser Dieu que de le limiter à une image ou à une statue, un dessin, une peinture, car Dieu est esprit, et la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu est invisible, il n'est pas comme nous avec la chair et le sang. Parfois, la Bible parle de la main de Dieu, ou de son œil, ou de son oreille, ou de ses pieds. Ce sont des images pour nous parler de Dieu, mais qui ne représentent pas qui il est vraiment. Ce n'est pas littéral. Bien sûr, on utilise des mots humains pour parler de Dieu. On va parler de que Dieu entend, que son oreille se porte vers nous, mais ce n'est en aucun cas le fait que Dieu a une oreille réelle. Dieu est esprit et nous ne pouvons pas le représenter même dans notre imagination, car il dépasse en fait tout ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. Et même la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc c'est pourquoi nous ne faisons pas de statue, nous ne pouvons pas le représenter, nous ne faisons pas de statue ni de Jésus-Christ non plus, ni des saints. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs de statues de pierre, car Dieu n'est pas présent dans les statues de pierre. Dieu est présent partout par son esprit et il est là au milieu de nous ce matin. Jésus dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors on n'a pas besoin d'une image, mais par contre on a besoin de la foi, parce que pour croire que Jésus est là au milieu de nous ce matin, il faut la foi, puisque nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous le croyons dans notre cœur, et c'est par la foi que nous pouvons affirmer cela. Il y a un autre verset dans Hébreux qui dit « C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu ». Il faut la foi pour croire cela. C'est écrit dans Genèse, chapitre 1 et verset 1 et suivant, que Dieu a tout créé par sa parole, mais il dit « Nous n'étions pas là et c'est par la foi que nous croyons que ces choses ont été faites ainsi, puisqu'il n'y avait pas de, il y avait personne qui a été, en tout cas de ce monde, qui a pu voir cela. Il y avait les anges qui étaient là, il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, ils ont assisté à cela, mais nous, nous le croyons par la foi, nous le recevons dans notre cœur. Et ce que Dieu veut, voyez au verset 5, c'est une adoration exclusive. Tu ne te prosterneras point devant elle, devant ces images taillées. Beaucoup de peuples faisaient des idoles en bois, en pierre, et ils se prosternaient devant. Alors, regardez ce mot prosterner au verset 5. Eh bien, on peut le traduire soit prosterner ou alors adorer. C'est exactement le même mot, puisqu'en hébreu, se prosterner, ça veut dire adorer, ou adorer, ça veut dire se prosterner. Par ces deux mots que l'on peut traduire le même terme. Ça veut dire que Dieu désire que nous l'adorions, lui et lui seul, et que nous n'adorions aucun autre Dieu. Un peu plus loin, il dit « Je suis un Dieu jaloux ». Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est jaloux? Ça n'a rien à voir avec notre jalousie que l'on peut éprouver nous-mêmes en tant qu'humains, la jalousie qui peut être un péché d'ailleurs. Mais la jalousie de Dieu, et là encore, c'est une manière de parler de Dieu avec des mots humains, un petit peu comme quand on dit « Dieu s'est repenti du mal qu'il avait fait ». Mais la repentance de Dieu n'est pas la même chose que la repentance de nous quand on a pris conscience de nos péchés. Donc les mots qu'on utilise pour parler de Dieu sont souvent imparfaits, mais ils nous permettent de comprendre certains éléments concernant Dieu. Là, pareil, « je suis un Dieu jaloux », ça signifie tout simplement que Dieu n'accepte aucune concurrence. Ailleurs, il dit « je ne partagerai pas ma gloire avec un autre ». Et ça, nous devons l'accepter, il est unique et il est exclusif. Et l'adoration que nous lui portons, eh bien, nous ne pouvons pas en même temps avoir dans notre cœur de l'amour pour d'autres idoles, d'autres dieux, d'autres choses qui pourraient faire concurrence à Dieu. Remarquez enfin le contraste entre la bénédiction sur les enfants jusqu'à 1000 générations et en contraste avec la punition pour ceux qui s'éloignent sur 4 générations. Mais la bénédiction s'étendra sur 1000 générations. Là encore, c'est un contraste que l'on peut voir entre l'amour de Dieu et sa grâce, parce que Dieu est davantage disposé à faire grâce, même dans l'Ancien Testament, que à punir, que à être sévère. Mais bien entendu, il le sera pour ceux qui le haïssent, il est dit, pour ceux qui le rejettent, oui, il y aura des sanctions, mais en tout cas, il est disposé à bénir et à faire grâce d'une manière générale. D'ailleurs, quand on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle était déjà présente dans l'Ancien Testament. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le nom de l'Éternel est tellement sacré que les Juifs ne le prononçaient même pas. C'est ce qu'on appelle le tétragramme YHWH, dont on ne sait pas comment il faudrait le prononcer. C'est souvent transcrit par Yahvé dans les versions. Vous voyez le mot Yahvé. Ces fameuses 4 lettres qui ont été transcrites. Mais au lieu de lire, de prononcer le nom de Dieu, parce que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, alors il prononçait celui de Seigneur. En hébreu, c'est Adonai. Vous connaissez ce mot Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur. À chaque fois qu'il voyait YHWH, alors il disait Adonai, Adonai le Seigneur. Et il désignait ainsi Dieu sans prononcer son nom, par crainte de l'offenser par leurs paroles. C'est intéressant parce qu'on trouve 10 noms composés de Dieu avec Yahvé. Vous connaissez certainement Yahvé Jiré. Yahvé Jiré, c'est le premier nom composé de Dieu qu'on trouve dans la Genèse, qui signifie l'Éternel pourvoira. Yahvé Jiré, c'est Abraham qui a reconnu Dieu comme Yahvé Jiré. Et remarquez que tous les noms composés de Dieu, on peut les appliquer à Christ. Car Dieu pourvoit à l'Holocauste, Dieu pourvoit au sacrifice pour remplacer Isaac, mais Dieu a pourvu en Jésus-Christ aussi au sacrifice pour nous remplacer. C'est-à-dire que Jésus est mort à notre place pour effacer nos péchés. Yahvé Jiré, l'Éternel a pourvu à notre salut en Jésus-Christ. Yahvé Rapha, on le trouve dans Exode, c'est l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha. Et quand on regarde Jésus, on le voyait qui guérissait les malades et qui faisait une œuvre pour Dieu. Exode encore, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Et Jésus, il est appelé, il est prophétisé, une bannière pour tous les peuples. Yahvé Makadiskem, l'Éternel qui vous sanctifie. Et Paul dit que Jésus nous sanctifie en son nom. Ainsi, on voit qu'à chaque nom composé, eh bien, Jésus est la réponse. Yahvé Shalom, Shalom c'est la paix, l'Éternel paix, eh bien en Christ, il a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Il y a aussi dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Yahvé Roi, l'Éternel berger, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Yahvé Elyon, dans le psaume 47, « L'Éternel le Très-Haut ». Elyon, ça veut dire le Très-Haut. Et Jésus, par Paul, nous savons dans Philippiens qu'il est dit qu'il est souverainement élevé. Il est aussi le Très-Haut. Yahvé Tsevaot, l'Éternel des armées, dans Ésaïe. Et nous savons que Christ conduit ses armées. Lorsqu'il reviendra du ciel, il sera à la tête de ses armées célestes. Et puis Jérémie 23, Yahvé Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. C'est affirmé que Jésus est notre justice dans 1 Corinthiens. Et puis Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Et nous savons que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, chaque nom composé de Dieu, il y en a 10, eh bien, à chacun de ces noms, il y a une application à la personne de Jésus. Quatrième commandement, donc ça c'était le nom de Dieu, bien sûr, tu ne le prendras point en vain, les noms composés de Dieu, nous pouvons prier ces noms composés. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos, c'est donc le sabbat pour les Juifs. Dieu a voulu que son peuple mette à part un jour. Il dit, car en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre, mais le 7e jour, il s'est reposé et il a voulu que son peuple suive ce rythme de la semaine. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Mais un jour de repos qui n'est pas pour ne rien faire. Un jour de repos qui est mis à part pour être consacré à Dieu, méditer sa parole. Alors à l'époque, c'était aller offrir des sacrifices, c'était rendre un culte à Dieu, d'une manière ou d'une autre, soit par la méditation, les chants, l'adoration. Les Juifs consacraient donc ce jour à Dieu. Et les premiers chrétiens, qui étaient juifs, bien sûr, la plupart étaient juifs, donc ils observaient déjà le sabbat, mais comme Christ est ressuscité un dimanche, ils ont voulu, eux, se réunir le dimanche. Et ils ont commencé à se réunir. Alors, comme c'était un jour travaillé, ils se réunissaient le dimanche soir. C'est d'ailleurs pour cela que, dans une maison, lorsque Pierre prêchait le soir, très tard, il y a Eutychus qui était à la fenêtre, qui est tombé par la fatigue. Il est tombé en arrière et Paul a dû prier pour lui. Il était mort et ils l'ont ramené. Il est ressuscité, ils l'ont ramené dans la maison. Mais pour vous montrer que les cultes avaient lieu le soir, après la journée de travail le dimanche, parce que c'était une journée, comme pour nous le lundi, c'était une journée travaillée. Et par la suite, le dimanche est devenu le jour de repos, puisque ça a été institutionnalisé que le culte serait rendu le dimanche. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se rassemble le dimanche. Mais le dimanche pour nous, c'est le jour où nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur, pour lui rendre un culte, pour l'honorer. Bien sûr, on le fait chacun dans la semaine, puisque nous pouvons lire la Bible et prier chaque jour. Mais là, c'est le rassemblement de la communauté, et c'est un jour béni, c'est le jour où nous pouvons adorer Dieu. C'est pourquoi chaque dimanche est une journée importante, c'est une journée mise à part pour Dieu. C'est important de réserver ce jour, de mettre ce jour à part dans nos agendas pour ne pas qu'il soit morcelé, ou grignoter. J'entends de plus en plus que maintenant on impose, on pousse à ce que les gens travaillent de plus en plus, même le dimanche. Et la société évolue pour que bientôt il n'y ait plus de jours fixes de repos. Alors ça sera un jour par-ci, un jour par-là. Mais vraiment, si nous avons la possibilité de conserver ce jour à part, eh bien c'est une réelle bénédiction. C'est vrai que certains n'ont pas saisi parce que ils disent « Oh, je suis tellement fatigué, je vais me reposer, je vais rester couché aujourd'hui, c'est dimanche. » Mais en réalité, on est bien plus renouvelé, fortifié dans la présence de Dieu. Dieu nous permet de gagner du temps, de comprendre des choses bien plus vite et d'avoir d'autres occasions de rencontrer les bonnes personnes. Si nous l'honorons, la Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais moi, si je ne suis pas conséquent et sérieux avec ce jour que Dieu a voulu que nous mettions à part, eh bien, fatalement, peut-être on sera reposé physiquement, mais moralement, spirituellement non renouvelé, on n'aura pas la vie de Dieu, on n'aura pas rencontré les frères et sœurs, écouté la parole de Dieu, loué ensemble. Et tout cela génère en nous une certaine vitalité, et Dieu aime cela. Alors saisissons cette importance, souvenons-nous, comme dit ce commandement, souvenons-nous du jour, alors pour nous, du dimanche que l'on met à part. Chaque culte est important, ce sont des rendez-vous avec Dieu. Alors, sauf cas de force majeure, quelqu'un est vraiment malade, il ne peut pas venir, quelqu'un a quelque chose qui nous empêche. Mais si pour un oui, pour un non, on ne vient pas au culte, vous voyez, on n'a pas compris vraiment qu'est-ce que c'est le culte et l'importance que Dieu prend aussi au culte. Quand Dieu passe au second plan, parce qu'on pense que ce n'est pas si important, eh bien au contraire, souvenons-nous du jour du repos. Si on prend du temps pour Dieu, bien notre activité s'en retrouvera en bénéfice. Et même nous gagnerons du temps. On ne peut pas être heureux en négligeant les choses de Dieu. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. On voit combien les parents ont une place importante dans la Bible, au sein de la famille. Et Paul enseigne de prendre soin des siens. Mais là, dans le contexte, il s'agit des veuves, donc des personnes âgées ou des parents, peut-être veufs. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, dit Paul, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » C'est d'ailleurs le seul commandement, au verset 12, qui est assorti d'une promesse « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Il y a une promesse donc de longévité et de bénédiction dans le fait d'honorer ses parents. C'est le seul commandement qui a une promesse de bénédiction comme celle-ci. Sixième commandement, tu ne tueras point. Ça a été traduit différemment suivant les versions, puisque les versions les plus récentes disent « tu ne commettras point de meurtre ». Ce n'est pas tout à fait pareil, puisque dans l'idée de meurtre, il y a la volonté, la préméditation de faire du mal. Et on voit que la vie est sacrée et que Dieu exigeait même dans l'ancienne alliance la peine de mort à celui qui avait tué quelqu'un, au meurtrier. Il y avait donc quelque chose de grave à prendre la vie de quelqu'un, tellement grave que la personne devait payer de son sang. Hein, c'est ce verset qui dit « œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie ». Si on a pris la vie de quelqu'un, bien notre vie sera reprise. Pourquoi ? Parce que c'était pour montrer que le prix d'une vie humaine, c'est quelque chose d'important et qu'on ne doit pas commettre de meurtre. On voit aussi qu'il n'y a pas que les meurtres physiques, mais ceux qui tuent avec la langue. Dans Jérémie 18:18, ils ont dit « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi périra ». Ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons point garde à tous ces discours. Et certains utilisent ici leur bouche pour tuer aussi, mais avec la langue. La Bible parle d'un venin aspic qui est dans la bouche, d'une langue qui est une arme tranchante, qui est une piqûre de serpent. Et ce sont des paroles qui vont tuer, qui vont détruire. Or, Jacques nous dit que de la même source ne doivent pas sortir la bénédiction et la malédiction et que notre langue doit être utilisée pour bénir. Bénissez et ne maudissez pas. Jésus prend cet exemple en parlant des pharisiens qui avaient toujours des propos méchants à l'égard de Jésus. Et nous sommes des fois confrontés à des personnes qui nous veulent du mal et qui ont des méchants propos. Alors, il leur dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous êtes blanc au dehors, parce qu'ils avaient l'apparence de la religiosité, mais au-dedans, c'était la mort, des os desséchés, c'était une odeur fétide. C'était la mort et non pas la vie. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est un péché grave qui peut détruire non seulement un couple, mais toute une famille. Et c'est pourquoi, eh bien, quand il y a une alliance par le mariage, nous devons respecter cette alliance. Nous avons promis l'amour et la fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais quand il y a adultère, ça veut dire que l'alliance a été rompue. Il y a David qui était roi, qui est tombé dans ce péché d'adultère alors qu'il se promenait. Et on se rend compte que l'adultère ne vient pas par hasard, mais qu'il est ici, dans le cas de David, la succession de petites négligences. Des petites négligences accumulées les unes aux autres ont fait qu'il a basculé dans l'adultère. C'était l'époque où les rois devaient partir en campagne, mais il a négligé cela. Il a préféré rester au palais. Et puis, le soir, ne sachant pas comment s'occuper, eh bien, il a négligé encore la parole de Dieu, il a négligé de passer du temps dans sa présence. Il est allé traîner. Il est allé traîner sur le toit de sa maison. Comme on pourrait dire, il est allé traîner sur Internet. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu une femme qui se baignait et les désirs se sont portés sur elle. Et là, au lieu de les chasser, encore la négligence, il n'a pas chassé de son esprit ses pensées, il n'a pas détourné ses regards. Eh bien, il a convoité cette femme et il l'a désirée. Et puis, les serviteurs lui ont dit, mais attention, c'est une femme mariée. C'est la femme de Uri, le Héthien, qui est un de tes serviteurs. Encore une négligence, il n'a pas écouté les conseils et il n'en a fait qu'à sa tête. On voit que quand la convoitise est rentrée dans l'esprit, eh bien, cette accumulation de petites négligences, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, les petits renards ravagent les vignes. Lui, il s'appelle David, c'est le roi, il se sent au-dessus des lois, mais non, David devait se soumettre à la parole de Dieu, il n'était pas au-dessus des autres. Eh bien, tout cela a eu pour conséquence qu'il a fait venir Bathsheba chez lui et ils ont commis l'adultère. Et ainsi, ça a été très grave, puisque l'enfant qu'ils ont eu est mort, puisque David a fait tuer Uri, le mari de cette femme Bathsheba, et ensuite pour pouvoir l'épouser. Enfin, ça a été catastrophe sur catastrophe et l'adultère va générer des souffrances, va générer des divisions, des séparations dans les familles. C'est pourquoi nous devons veiller. Jésus dit dans Matthieu 5, « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est ce que David a fait. Déjà quand il a convoité cette femme-là, il était déjà dans le péché. Alors veillons à tout ce qui passe devant nos yeux. Soyons vigilants. Vous savez, avec les divertissements, ça passe vite. Ça passe vite au péché, à la tentation. Et nous devons être fermes parce que les petites négligences font que certains basculent dans le péché à cause de leurs yeux. Ils ont laissé petit à petit des images, des pensées. Et puis ils se disent « Ah, qu'est-ce que je serais mieux peut-être avec cette collègue de travail ? Elle est tellement plus gentille. » Ou « Ce collègue, il est si gentil par rapport à mon mari. Il me parle moins gentiment. Il est plus doux. Il me respecte. » Et toutes ces pensées-là vont faire que, eh bien, on va s'attacher. Et c'est déjà de l'adultère. Déjà spirituellement, c'est de l'adultère. Mais ça peut se concrétiser si les gens vont dans les actes. C'est pour ça que dès que la pensée vient, au nom de Jésus, nous devons la rejeter, la canaliser pour que notre cœur soit gardé pur. Huitième commandement, tu ne déroberas point. C'est le piège des possessions, de vouloir toujours plus avoir ce que les autres ont. On sait que, par exemple, même parmi les disciples, il y en avait un qui s'appelait Judas, qui était au même rang que les autres. Il avait part au même ministère, dit la parole de Dieu. Judas, c'était un des disciples de Jésus. Il est allé d'ailleurs prier pour les malades et il y a eu des miracles qui se sont produits dans le nom de Jésus, par le ministère de Judas. Il avait une certaine responsabilité parmi les douze. La Bible dit qu'il tenait la caisse où on mettait l'argent, mais il prenait dans la caisse, il volait, et la Bible dit qu'il était voleur. Jésus a, bien sûr, tout fait pour que ce Judas se repente, mais il n'a jamais confessé son péché. Jusqu'à la dernière soirée, la fameuse Pâque, où il est dit que Satan est entré dans le cœur de Judas. Mais avant d'en arriver là, déjà Satan avait mis dans sa pensée l'idée de livrer Jésus. Ça s'est fait par étapes progressivement. Puisqu'il était voleur, il avait dans sa vie des choses qui n'étaient pas réglées. Eh bien, Satan en a profité pour l'inspirer. Et puis, dans Jean 13, c'est dit que Satan est entré dans le cœur et qu'il a livré Jésus pour le sacrifice. À tout moment, il aurait pu faire demi-tour, mais il était comme tenaillé par son péché. C'est pour ça que si on a volé, il faut confesser nos péchés. Neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et là encore, nous devons être vrais et ne pas mentir sur l'un ou sur l'autre, ne pas se laisser corrompre. Peut-être qu'il y a des intérêts financiers par l'argent, mais de dire la vérité. L'histoire de Naboth dans 1 Roi 21 nous le montre. Naboth, c'était un homme qui possédait une vigne et le roi Akab voulait cette vigne pour lui. Mais Naboth ne voulait absolument pas la vendre. Alors Akab est rentré à son palais, il était complètement abattu, découragé, il s'est mis allongé sur son lit en train de se lamenter de cette situation, que Naboth ne voulait pas vendre sa vigne. Et quand Jézabel, la femme du roi, le voit dans cet état, lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il lui raconte et elle lui dit « Mais toi, tu es le roi en Israël et tu n'es pas capable d'obtenir cette vigne. » Alors elle écrit des lettres au nom du roi, les envoie à la ville de Jizréel où habitait Naboth et ainsi met sur ces lettres « Vous allez convoquer un jeûne et vous allez mettre Naboth au premier plan et demander à des faux témoins de porter un faux témoignage contre lui, comme quoi il n'honore pas Dieu ni le roi, et ensuite vous le lapiderez. » Et c'est à cause de faux témoins, parce que Naboth était un homme droit, il n'y avait pas de choses mauvaises en lui, mais il a voulu simplement garder sa vigne. À cause des faux témoins, donc, cet homme a été lapidé. Eh bien, l'histoire de Naboth nous rappelle aussi l'histoire de Jésus lui-même, puisque c'est par des faux témoins, la Bible dit que il y avait des faux témoins, leur témoignage ne se concordait pas, mais lorsqu'il a fallu qu'il soit accusé, alors il y avait des faux témoins qui plaidaient contre Christ en disant « il a fait ceci, il a fait cela », mais tout était faux, et c'était afin de pouvoir l'accuser et qu'il soit crucifié. Et effectivement, des faux témoins font toujours une œuvre de destruction. C'est pourquoi la Bible dit « non, toi tu ne porteras pas de faux témoignages ». Et le dixième commandement, « Tu ne convoiteras point ». Ça, c'est un peu le désir de posséder toujours plus. Et ceux qui veulent toujours plus sont toujours insatisfaits, car le bonheur n'est pas dans les possessions. J'entendais des missionnaires qui revenaient de missions en court terme en Afrique et qui disaient que là-bas, quand ils arrivaient dans un village, ils n'avaient rien, juste des maisons, un peu d'eau, mais pas d'électricité, rien. Mais par contre, ils avaient une joie éclatante que nous, dans nos pays occidentaux, on n'a pas. Ils ont quelque chose dans le cœur que nous n'avons pas. Et ça, c'est intéressant pour nous montrer que le bonheur n'est pas lié aux possessions et au confort. Voyez, par exemple, dans 2 Rois 5, vous trouvez l'histoire de Géasi. Géasi, c'était le serviteur d'un prophète qui s'appelle Élisée. Et comme Élisée avait prié pour la guérison de Naaman, cet homme qui était un général syrien lépreux, il avait été donc complètement guéri de sa lèpre, et ce général voulait honorer Élisée en lui donnant de l'argent. Il avait ramené donc des talents d'argent, il avait ramené des vêtements, il avait ramené de l'or. Mais Élisée avait dit « Non, je ne prends rien de ces choses, tu peux partir en paix. » Et Élisée s'est dit « Mais moi, je ne vais quand même pas laisser passer ce général sans récolter quelques-unes de ses richesses, de ses biens. » Alors il a couru après, il a raconté un mensonge en disant « Mon serviteur Élisée a reçu deux prophètes, est-ce que tu pourrais donner un talent et puis deux vêtements pour eux ?»« C'est pas pour moi », il dit « C'est pas pour moi, c'est pour mon maître. » Et il fait passer la chose comme cela. Et puis le général généreux dit « Non, prends deux talents. » Et puis lui, les prend volontiers. Et les talents, c'est des sommes considérables, c'est de l'argent. Et il va cacher tout ça dans sa maison. Et Géasi se trouve devant le prophète Élisée, Élisée a tout reçu par l'esprit. « D'où viens-tu ? » Et lui, il ment. « Je suis allé ni de gauche, ni de droite, j'étais tranquille. » Mais il dit ceci, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des servantes ?» La convoitise. Et la lèpre de Naaman s'attacha à Géasi. Cet homme, donc, par sa convoitise, a attiré sur lui une malédiction. à la fois sur lui et même sur sa famille. Dieu nous libère de ce désir de convoitise. Voilà les 10 commandements. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, en fait, il avait tardé, ça a duré 40 jours, cette histoire des 10 commandements, parce qu'il y a plein de révélations qui vont être données à Moïse. Entre-temps, le peuple en bas, dans la vallée, s'était corrompu. Il disait, mais Moïse tarde à venir, peut-être qu'il ne reviendra plus, faisons-nous un Dieu. Et ils ont demandé à Aaron de faire un Dieu. Faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. La réaction d'Aaron est étonnante. Il a dit, apportez-moi l'or, votre or et votre argent, et il leur a fabriqué un veau d'or. On a du mal à comprendre à Aaron qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit pour qu'il cède au peuple. Il savait très bien qu'on ne fait pas de représentation de Dieu et qu'on n'adore pas les faux dieux. Et ils ont construit un veau d'or et le peuple a dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ils lui offrirent des sacrifices et se divertirent. Et quand Moïse est descendu de la montagne avec les 2 tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, et qu'il a vu l'état du peuple qui était dans le péché, alors il a pris les tables et il les a jetées du haut de la montagne et elles se sont fracassées par terre. C'est comme s'il voulait dire que l'alliance qui venait d'être conclue est maintenant brisée. Et à ce moment, il a fait fondre le veau d'or, l'a réduit en poudre et l'a fait boire à tout le peuple pour qu'ils prennent conscience de leur péché. Et ensuite, il a prié pour ce peuple parce que Dieu voulait le détruire. Et il a dit à Dieu, plutôt efface-moi de ton livre et épargne ce peuple. Et Dieu a fait grâce. Moïse est retourné à nouveau 40 jours dans la montagne. Il a taillé 2 tables de pierre comme les précédentes, sauf que les précédentes, c'était Dieu qui les avait taillées. Mais là, c'est Moïse qui les taille la 2e fois. Et c'est du doigt de Dieu, donc Dieu écrit à nouveau les 10 commandements, les 10 paroles de l'Alliance sur 2 tables de pierre. Moïse a insisté auprès de Dieu pour qu'il soit épargné. Sinon, le peuple entier aurait péri dans le désert. On va conclure les 10 commandements. Donc, c'est le sceau de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le fondement de nombreuses sociétés, d'ailleurs, sont basées sur les 10 commandements. Hein, la plupart des lois dans tous les pays, la législation s'inspire des 10 commandements. Mais cette alliance qui a été faite du temps de Moïse, 1300 ans plus tard, va être renouvelée en Christ. Et le soir de la Pâque, lorsque Christ a fait circuler le pain et le vin, il a dit, il prit de même la coupe après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » La première alliance, c'est au mont Sinaï, c'est avec Moïse, c'est les tables de la loi. La deuxième alliance, celle que nous vivons aujourd'hui, elle est en Christ et c'est par le sang de Jésus que nous avons accès à Dieu. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole. Nous savons que tu es là ce matin, que ton esprit est là, que ta présence est là et que tu veux encore nous fortifier au travers de ce message. Et nous te prions de bénir chaque cœur, de nous remplir de ta paix, de ta joie pour le reste de cette journée, de nous accorder ta grâce toute cette semaine, de bénir mon frère ou ma sœur qui est peut-être venu chargé ou malade, mais tu as encore des solutions de restauration, de bénédiction. Merci pour ces 10 commandements qui nous ont été laissés, pour cette parole qui nous instruit pour marcher selon tes voies pour te plaire et nous voulons chercher à t'honorer et te servir de tout notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen.